Les débats des mémoires. Une série de podcasts proposés par la ville de Rouen. Épisode 4. Des femmes inspirantes. Sortir les femmes de l'ombre. Voici l'un des premiers objectifs que visait le projet des débats des mémoires à Rouen. Et pour cause. À Rouen, comme dans toutes les grandes villes françaises, bien rares sont les rues qui portent le nom d'une femme. Puisque la marginalisation des femmes dans l'histoire contribue à leur marginalisation actuelle, il était temps d'explorer l'histoire de Rouen pour révéler l'existence passée de multiples femmes qui ont marqué la ville, et ce, dans de nombreux domaines, et offrir ainsi autant de parcours inspirants à découvrir.
Quand on se balade dans une ville, les noms des rues qu'on voit, c'est souvent des noms d'hommes qu'on ne connaît pas vraiment.
Laura Slimani, adjointe au maire de Rouen, en charge notamment de la démocratie locale et participative et de l'égalité femmes-hommes.
On ne sait pas exactement qui c'est, mais ils ont leur nom qui est sur une rue, donc on se dit que ça devait être quelqu'un d'important. Et souvent, en fait, ce sont des personnalités locales, des scientifiques, des artistes, des notables, des industriels, des artisans, des chefs d'entreprise. Enfin, et en fait, finalement, ce patrimoine local-là, enfin. Il existe pour les hommes, mais les femmes qui ont agi à l'échelle locale, elles ont été doublement invisibilisées parce que au moment où on a eu un mouvement favorable au matrimoine et à la reconnaissance de la contribution des femmes à l'histoire, finalement, on a commencé à renommer des bâtiments d'après des femmes qui étaient un peu toujours les mêmes partout, c'est-à-dire ces figures nationales ou internationales que tout le monde connaît, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Niki de Saint-Phalle, Rosa Parks, Marie Curie, enfin voilà, on a ces noms-là, on les connaît tous. Mais finalement, les femmes, elles ont aussi agi toutes à l'échelle locale, en tant qu'artistes, en tant que résistantes, en tant qu'actrices de leur quartier. Elles ont créé des associations, elles ont géré, elles ont été sportives, elles ont géré des hôpitaux pendant la guerre. Enfin voilà, elles ont fait énormément de choses qui ont été complètement invisibilisées. Et doublement pour celles qui n'ont pas percé au niveau international, on va dire. Et donc, ce qu'on a fait, du coup, à partir de ce moment-là, c'est qu'on s'est vraiment intéressé aux femmes aux femmes rouennaises inspirantes. On a appelé ça « femmes rouennaises inspirantes », cette démarche. Et on est allé collecter un certain nombre de noms qui nous venaient à la fois de certains acteurs au niveau local qui avaient déjà travaillé sur cette question, par exemple Aurélie Daniel, mais aussi donc l'association HF Normandie et des habitants aussi qui avaient identifié certaines personnalités et qui demandaient à ce qu'on puisse leur permettre d'avoir une place à leur nom, par exemple. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on a rassemblé, donc au départ, une cinquantaine de noms dans un petit livret qu'on a appelé « Femmes rouennaises inspirantes ». Et on a créé une exposition. Et l'idée de cette exposition, c'est une petite exposition itinérante, c'est qu'on puisse la disposer dans différents quartiers de Rouen, dans différents lieux de Rouen. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à un peu faire tourner cette exposition et organiser des petites inaugurations à chaque fois qu'on mettait cette exposition quelque part. Dans des quartiers de Rouen, des maisons de quartier, des MJC, on l'a mise sur les grilles du Square Verdrel. Et en fait, à chaque fois qu'on faisait ces inaugurations, avec parfois un petit débat aussi, on avait des habitants qui venaient nous voir et qui nous disaient « Ah, mais vous avez pas mis telle femme qui créé telle association et qui vraiment mériterait d'être dans votre livret. Une personne qui vient me voir un jour et qui me dit « Bah, en fait, moi, la grand-mère de mon conjoint, elle a été résistante, mais elle a jamais été reconnue comme telle. » Donc voilà. Et en fait, ça, c'est des biographies qui se sont ajoutées au fur et à mesure à ce livret « Femmes rouennaises inspirantes ». Et donc ça, c'est vraiment le côté participatif de cette démarche. Et ça montre bien aussi que cette mémoire, elle peut pas se faire sans les habitants.
En fait, depuis longtemps, les femmes ont été largement invisibilisées. Il est très difficile aujourd'hui encore de citer très facilement 10 femmes peintres.
Faustine Lebras, coordinatrice de l'association HF Normandie.
Et ça, c'est un vrai enjeu de société, en fait, parce que si on n'a pas de modèle de représentation, de personne à laquelle on peut se référer, on ne peut pas nous-mêmes se projeter dans une carrière artistique, par exemple. Et c'est vrai que on imagine que la question des femmes, c'est pas une question qui est problématique dans la société, mais en réalité oui, parce qu'on doit se questionner sur pourquoi en fait cette mémoire elle n'a pas été gardée et pourquoi, par quelle volonté politique en fait on a choisi d'invisibiliser les femmes dans leur découverte, dans leur rapport à l'histoire. Et en ça c'est un combat qu'on doit mener aujourd'hui et qui a été notamment largement relayé dans le cadre du débat des mémoires, en faisant émerger des noms de femmes, en posant des plaques, en réalisant des livrets pour les valoriser. Et ben ça participe à nous laisser trace et à nous permettre d'avoir une mémoire collective plus égalitaire. C'est en fait l'héritage que nous ont laissé les femmes dans le matrimoine. Ce n'est pas du tout un néologisme, hein, c'est un mot qui a toujours existé dans la langue française et qui traduisait justement l'héritage qui était apporté par les femmes, puisque ça vient de la racine latine mater, tout simplement, donc la mère, et patrimoine, ça vient de la racine pater, le père. Donc en fait, ce qui est intéressant, et ça c'est très politique, c'est de savoir que c'est un mot qui a été qu'on a fait sciemment disparaître de la langue française au XVIIe siècle, et on peut se poser évidemment la question de pourquoi est-ce qu'on fait disparaître des mots de la langue française, et ça a une dimension très politique. Et pour nous, il y a forcément un lien entre l'invisibilisation des femmes dans notre histoire et le simple fait aussi qu'on ait fait disparaître ce mot.
Anne de Souvray, Juliette de Croix, Mathilde Poivre, Sarah Salé, Élisabeth Emery, Simone Madeleine Valois, Jacqueline Guéroud.
La question du matrimoine, elle est centrale, notamment dans l'espace public, puisque on sait que ici à Rouen, par exemple, il y a à peu près, et c'est pareil au national, il y a à peu près 6% de rues qui portent des noms de femmes. Et c'est vrai que nous, comme on travaille sur cette question du matrimoine, on a rapidement eu l'envie, partagée avec la ville, de valoriser ces femmes qu'on a fait émerger grâce aux projets proposés dans le cadre des Journées du matrimoine. Et notamment pour mettre à l'honneur ces femmes, il nous paraissait important de faire apposer des plaques sur les endroits où elles ont vécu, pour que n'importe quelle Rouennaise ou Rouennais qui passe dans ces espaces se rende compte de la richesse que ces femmes ont apportée à notre ville et à notre territoire. Et notamment ici, on est à l'Être Saint-Maclou, qui est un endroit particulièrement prisé des Rouennaises et des Rouennais, notamment depuis sa rénovation, et c'est aussi un endroit extrêmement touristique, et ça nous paraissait indispensable que Espérance Langlois, voilà, qui est une peintresse, une dessinatrice, une graveuse, qui a travaillé à Rouen et qui a notamment réalisé des gravures du vitrail de Saint-Julien l'Hospitalier, de la cathédrale de Rouen, mais également elle a fait des gravures des danses macabres de l'Être Saint-Maclou, et ben c'est indispensable en fait que cette femme elle soit valorisée à travers la pose de plaques.
Nous sommes devant l'entrée nord du square Verdrel et à cette entrée, nous pouvons lire une plaque concernant Denise Holstein qui a vécu juste en face dans la rue Jeanne d'Arc au numéro 79.
Aurélie Daniel, animatrice culturelle, créatrice des balades rouennaises.
Donc elle est née en 1927, vie paisible jusqu'à son adolescence, qui correspond à l'arrivée des Allemands. Hein. Son collège, lycée va être réquisitionné par les Allemands et on a les premières interdictions, c'est-à-dire interdiction d'aller au tableau, puisque c'était une jeune femme juive. Interdiction d'aller au tableau et interdiction aussi de traverser le square Verdrel. Et ensuite, bien sûr, il y a eu le port de l'Étoile jaune et puis... Le 15 janvier 1943, elle a été arrêtée avec sa famille. Et séparée d'ailleurs de sa famille dès ce jour, elle a été emmenée dans des camps en France, notamment à Drancy et puis à Louveciennes. À Louveciennes, elle a été en compagnie de 34 enfants juif. Elle est devenue la monitrice en quelque sorte de 9 d'entre eux. Et puis après, ils vont tous être déportés au camp d'Auschwitz. Dès l'arrivée dans les camps, ses enfants vont être tués. Et elle va connaître l'horreur des camps pendant 2 ans. Donc comme je vous disais, elle avait 16 ans, hein, c'était une adolescente. À la libération, elle va découvrir que ses parents n'ont pas survécu. On lui conseille d'écrire ce qu'elle a vécu. Et puis, elle va se taire. Pendant des années, seul le numéro qui se trouve sur son bras va témoigner de ce qu'elle a vécu. Et ce n'est que dans les années 90, poussée par Serge Klarsfeld, elle va commencer véritablement à témoigner et elle va aller dans de nombreux établissements scolaires de France. Et elle va d'ailleurs même retourner à Rouen. Elle va témoigner auprès des élèves du collège Barbé d'Aurevilly qui était son lycée, le lycée Jeanne d'Arc. Elle va même écrire un livre qui s'appelle « Je ne vous oublierai jamais, mes enfants d'Auschwitz » en hommage à ses enfants disparus. Donc là, nous nous trouvons devant le 25 de la rue Jeanne d'Arc et c'est ici que se trouvait le cabinet de la première femme médecin de Rouen. Il s'agit de Marie-Ernestine Roussel, une femme qui est née à Évreux en 1859. Son père était pharmacien et elle a passé son bac à la Sorbonne. Ensuite, elle a soutenu sa thèse à la fac de médecine de Paris en spécialité gynécologie. Et ça, c'était en 1890. Et l'année suivante, elle a décidé donc d'ouvrir son cabinet à Rouen, dans la rue Jeanne d'Arc, pour des consultations exclusivement réservées aux femmes et aux enfants. En 1900, Madame Roussel a été la cofondatrice de la Goutte de lait de Rouen, qui est une institution qui distribuait le lait stérilisé pour les femmes qui ne pouvaient pas allaiter.
Alors, c'est vrai que très tôt, des femmes se sont intéressées au passé des femmes.
Marion Charpenel, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Rouen.
Elles étaient absentes du récit historique et du récit national et qu'il pouvait y avoir un intérêt à essayer d'écrire ou de raconter le passé des femmes, d'essayer de d'écrire l'histoire des femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, l'histoire, elle fait pas seulement enregistrer la réalité sociale, elle produit un récit. Et donc, produire un récit écrit au masculin neutre, eh bien, ça participe à marginaliser aussi les femmes au présent. Et donc, il y a eu assez vite cet intérêt pour le passé des femmes et pour l'histoire des femmes, en particulier chez les féministes, parce que elles se sont dit, ben, écrire le passé des femmes, visibiliser l'histoire des femmes, c'est aussi une façon de lutter contre la marginalisation des femmes au présent. C'est aussi montrer qu'elles ont été capables, par exemple, d'occuper des postes de pouvoir, qu'elles ont été déterminantes dans certains processus sociaux et que au présent, elles peuvent aussi du coup occuper ces places de pouvoir, elles peuvent avoir un rôle dans la société. Et donc il y a eu un rapport un peu d'intérêt mais aussi instrumental au passé des femmes et à l'histoire des femmes, au sens où très vite des féministes se sont dit écrire le passé des femmes, écrire l'histoire des femmes, c'est une façon de lutter contre l'invisibilisation et la marginalisation des femmes au présent. Jusqu'au milieu des années 1970, finalement, l'histoire des femmes, elle est surtout faite par des non-universitaires. Et c'est à partir du milieu des années 1970 que l'histoire des femmes va entrer à l'université et va commencer à avoir une existence institutionnelle, une reconnaissance qui va prendre du temps, hein, parce que voilà, il va y avoir aussi un peu un soupçon de science militante qui va peser sur elle et contribuer à la discréditer. Mais voilà, à partir du milieu des années 1970, vous avez une génération qu'on pourrait qualifier de pionnières, qui sont des femmes dans l'université qui vont prendre en charge cette histoire des femmes. Donc je pense par exemple à Yvonne Knibiller, à Michel Perrault, à Madeleine Reberiou, à Rolande Trempé. Voilà, ce sont des historiennes qui vont contribuer à développer ce champ. Et une génération d'étudiantes qui sont souvent engagées au MLF, qui sont des militantes et qui vont aussi pousser ces pionnières à institutionnaliser cette histoire des femmes et à créer par exemple des cours, des séminaires d'histoire des femmes. Dans un premier temps, les travaux d'histoire des femmes se sont simplement posés des questions très 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 évidentes, très naïves, très simples, qui sont où sont les femmes du passé, qui elles étaient, comment elles se comportaient. Et donc, il fallait déjà essayer de répondre à ces questions avec le peu de sources disponibles. Parce qu'en fait, il faut avoir en tête que les vies de femmes, elles laissent moins de traces que les vies d'hommes. Et donc, il y a eu aussi toute la difficulté de dire comment est-ce qu'on va écrire l'histoire de vies qui ne laissent pas de traces et qui sont absentes des archives. Et donc ça a été un premier enjeu pour les historiennes des femmes. Et dans ces premiers temps de l'histoire des femmes, c'est vrai qu'on va aussi voir émerger les figures de femmes victimes. Donc il va y avoir des travaux sur les prostituées, des travaux sur les bonnes, des travaux sur des femmes victimes, enfin battues. Voilà, il y a tout un tas comme ça de travaux qui vont mettre en évidence la difficulté de la condition des femmes du passé. Et aussi ensuite un ensemble de travaux sur la culture féminine, les façons de faire, les gestes, les métiers de femmes, par exemple des travaux sur les couturières, sur la laveuse, tout ce qui faisait le quotidien des femmes du passé, essayer de rendre compte de cette culture féminine, de cette inscription du travail des femmes dans le quotidien. Et avec aussi une attention aussi pour les femmes de pouvoir, parce que comme dans le présent il fallait justement pouvoir attester du fait que les femmes pouvaient partager le pouvoir à égalité avec les hommes, enfin comme il y avait des enjeux aussi d'affirmation féministe des capacités des femmes, on s'est aussi intéressé aux femmes de pouvoir dans le passé pour montrer qu'elles avaient été à plein d'endroits et à plein de moments en situation d'exercer le pouvoir, en situation de responsabilité politique, etc. Et donc faire cette histoire, c'était une façon de légitimer des revendications féministes au présent.
Elisa Garnerin, Elisa Garnerin, Alice Chauvière, Alice Chauvière, Marie-Louise Guichot, Marie-Louise Duchamp, Angèle Lepage, Angèle Boineau, Louise Duhaneau, Louise Durand, Yvonne Gancel.
Nous ne sommes pas très loin de la paroisse dans laquelle est née Anne-Marie Dubocage, donc
Aurélie Daniel.
Dans la paroisse Saint-Martin-du-Pont. Elle est née en 1710 dans une famille de la haute société française. Elle a reçu une certaine éducation, une certaine instruction qui lui a donné un goût, notamment pour la littérature. Elle s'est mariée à Rouen. Avec son mari, elle fréquentait notamment Fontenelle. Elle va s'installer à Paris. Elle va fonder un salon qui était l'un des plus réputés pour son époque, fréquentée par toute l'élite intellectuelle et littéraire de Paris, notamment même Voltaire, Marivaux aussi. Et d'ailleurs, Voltaire va l'appeler la Sapho de Normandie, puisque elle va s'intéresser à la poésie. Donc tout d'abord, elle va traduire le Paradis perdu de Milton. Elle le traduit donc en français. Et puis elle s'inspire de lui pour écrire Le Paradis terrestre. Elle écrit aussi notamment des romans. Elle a voyagé en Italie, en Hollande et en Angleterre. Et elle correspond avec sa sœur pendant ses différents voyages. Ses lettres sont publiées dans un recueil. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que elle décrit les différences entre les conditions féminines de ces pays. C'était une femme qui était très appréciée, très reconnue par ses pairs. Elle était membre de nombreuses académies jusqu'à ce qu'elle s'intéresse au théâtre. Et là, attention. Le théâtre, c'est la chasse gardée des hommes. C'est là que les problèmes vont commencer. Donc, elle écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Les Amazones ». En plus, c'est un thème assez féministe. Et elle est critiquée vivement par des hommes pour ça, puisqu'ils ne comprennent pas qu'elle puisse oser s'attaquer au théâtre. Et pourtant, son œuvre a été très appréciée, a rencontré le succès à la Comédie française, a été jouée de nombreuses fois. Alors là, on est sur la place de la Haute Vieille Tour, où se trouve la Halle aux Toiles. Et figurez-vous que avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 3 halles sur cette place. Et dans l'une de ces halles se trouvait l'École des Beaux-Arts de Rouen. dans l'école des Beaux-Arts a étudié Juliette Billard, qui est une femme qui est née à Rouen en 1889. Elle est née dans la rue Socrate. Donc après avoir étudié ici à Rouen à l'école des Beaux-Arts, elle s'est inscrite à Paris à l'école nationale des Beaux-Arts en section architecture. Elle a pu poursuivre ses études donc jusqu'en 1921, à l'année où elle est devenue véritablement la première femme architecte de France. Juliette Billard, elle était aussi dessinatrice, illustratrice, maquettiste et elle était aussi professeure. Voilà, elle a été l'illustratrice aussi officielle du Livre d'Or de la ville de Rouen, dans lequel étaient relatés tous les événements importants de la ville. Toute sa vie, elle a dessiné le Rouen d'autrefois. Ses œuvres sont véritablement des témoins de ce qu'était la ville de Rouen avant la guerre. Et puis aussi, elle a été professeure, notamment à l'École des Beaux-Arts.
L'histoire des femmes est entrée à l'université, l'histoire du genre s'est développée, c'est devenu un objet légitime.
Marion Charpenel.
Du champ académique, on peut dire quand même globalement que l'histoire du genre s'est institutionnalisée et a gagné une reconnaissance. Après, si on pose la question de la place des femmes dans la mémoire collective, et notamment dans les usages politiques du passé, dans les manuels scolaires, etc., il y a encore du travail à faire pour visibiliser l'histoire des femmes. Et d'ailleurs, les historiennes des femmes et du genre ont investi cette question. Par exemple, elles se sont engagées dans des mobilisations mémorielles. Elles ont fait en sorte, par exemple, que les programmes scolaires d'histoire évoluent, que les manuels évoluent, qu'on propose des choses qui prennent davantage en compte les dernières avancées historiques en histoire du genre. Donc voilà, elles ont investi aussi ce champ-là. Elles ont participé à diffuser leurs productions, leurs écrits en dehors des cercles académiques, en participant à des événements au 8 mars, au 25 novembre, etc. Cette idée qu'il faut se souvenir du passé des femmes, ce que j'ai appelé le devoir de mémoire féministe, il a clairement produit des effets. Et on l'a vu, par exemple, au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris en 2024, avec ces grandes statues dorées de femmes qui avaient vocation à inscrire de manière durable, en plus dans l'espace public, la présence de femmes, d'une statuaire de femmes, pour, soit dit en passant, rattraper un retard conséquent, puisque par exemple, une ville comme Paris, il y a très peu de statuts de femmes dans l'espace public. Et donc voilà, c'était l'occasion comme ça de construire une mémoire des femmes via la statuaire. Après, il faut toujours avoir en tête que ben la mémoire, c'est l'objet de débats, de luttes, et que, par exemple, sélectionner des icônes comme ça, des figures de femmes dont on va construire le souvenir, ça peut créer des conflits, ça peut générer des discussions, des débats, parce que pourquoi on choisirait celle-ci plutôt que celle-là, etc. Il y a des questions comme ça qui se posent autour des mémoires, parce que la mémoire, c'est aussi une question politique, finalement.
Merci à Faustine Lebras, Aurélie Daniel et Marion Charpenel. Retrouvez Espérance Langlois, Denise Holstein, Marie-Ernestine Roussel, Anne-Marie Dubocage et Juliette Billard dans le Dictionnaire des femmes rouennaises inspirantes sur le site rouen.fr.
Les débats des mémoires. Une série de podcasts proposés par la ville de Rouen. À retrouver sur le site www.rouen.fr. Réalisé par Christophe Tréhé. À la voix, Adélaïde Prudhomme.